intitulé « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Qui est le berger, le bon berger pour nous ? Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le bon berger. La Sainte-Sainte, il y a quelques instants, voilà, nous rappeler en disant « Attention, je suis mort sous la croix de Golgotha pour l'humanité ». La Sainte-Sainte veut nous dire, rappeler que Jésus un jour est mort. Jésus un jour est monté sur la croix de Golgotha et son sang a coulé pour toi et moi, pour toute l'humanité, pour le monde entier, pour tout le monde. Amen. Tout le monde. Pour tous les siècles. Et aujourd'hui, nous bénéficions de cette grâce. Et aujourd'hui, nous voulons nous rappeler que finalement, c'est sérieux. Attention. La vie continue. Il y a les combats, il y a les difficultés. Mais la Sainte-Sainte, c'est comme si elle voulait nous dire, arrête-toi un peu, réfléchis, examine-toi. Jésus, le Fils de Dieu, a payé un prix pour toi et moi. Amen. C'est tellement important. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est un moment très fort. Puis j'ai toujours préféré que nous puissions prendre ça avec beaucoup de sérieux, beaucoup, une approche sérieuse, profonde, pas juste comme ça, à la légère. Donc, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous avez vu, au travers de cette sainte scène, au travers de l'intervention de Pascal. Alors, par la foi en Jésus-Christ, d'accord, nous sommes en relation personnelle avec Dieu. D'accord ? C'est personnel. La foi, c'est une affaire personnelle. Amen. Je ne peux pas donner la foi à quelqu'un. Tu ne peux pas me donner ta foi. Je peux t'encourager pour te dire, vas-y, ne t'arrête pas, continue, fais grandir ta foi, il y a des exploits devant toi, mais la foi, une relation personnelle avec Dieu, c'est quelque chose qui appartient à chacun d'entre nous, c'est personnel. Et sachez une chose, c'est que Dieu s'intéresse personnellement à toi. Pourtant, il y a des foules, il y a des millions de personnes. Et Dieu s'adresse, Dieu s'intéresse, Dieu s'occupe personnellement de ta vie personnelle. Amen. Vous êtes convaincus? Je sais qu'un jour, Jésus a frappé à ma porte. Il y a eu un moment fort dans ma vie où Dieu m'a convaincu qu'il est vivant, qu'il existe, que c'est lui qui est mon Dieu, que par la foi en Jésus-Christ, j'ai une chance, je peux réussir, je peux avoir du succès, du succès éternel. C'est formidable ça. Donc, voilà, nous passons tous par là, c'est Jésus qui est notre Seigneur, c'est lui qui est notre Sauveur. Et nous allons donc prendre deux versets dans l'évangile de Jean et on va ensemble retirer un enseignement de ces deux textes, hein, de ces deux versets. L'évangile de Jean, chapitre 10, oui, merci beaucoup. L'évangile de Jean, chapitre 10, et le verset 9 et 10. Je suis la porte. Qu'est-ce qui parle ici? C'est Jésus qui parle. Je suis la porte. La porte, la signification de la porte, c'est quoi? Ben regardez, si la porte est fermée là, vous ne pouvez pas entrer, d'accord? La porte. La porte, cette porte nous conduit quelque part. Voilà, donc c'est symbolique. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, donc si quelqu'un entre par cette porte, rentre où? Dans cette salle. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il n'y a pas de deux portes, il y a juste une porte. Pour tout le monde, dans le monde entier, blanc, noir, jaune, peu importe. Jeune, moins jeune, vieux, peu importe. Il y a une porte. Et cette porte s'appelle Jésus. Celui qui entre par moi sera sauvé. Amen. Sauvé veut dire libéré de quelque chose, libéré de la condamnation, libéré de la mort éternelle. Donc ici, il est question du salut. Premier point très important. Jésus est la porte. Et nous, nous avons décidé, nous avons fait un choix. Tu as fait un choix et j'ai fait un choix. Amen. Et tu t'es dit, au lieu d'aller à la mort, ben je fais un choix. Je décide passer par la porte qui me mène où ? Dans la vie éternelle, dans la joie. Dans la joie éternelle. C'est Jésus, par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ, je rentre dans l'éternité. Et je vivrai éternellement avec Jésus. C'est formidable, Amédée, hein ? Qu'est-ce que tu as fait pour bénéficier d'une telle grâce? Ah ben, c'est tombé tout seul. C'est la grâce. Quelqu'un t'a invité, quelqu'un t'a parlé, quelqu'un t'a donné un Nouveau Testament, quelqu'un t'a dit, tu sais, je suis croyant, je suis convaincu, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Ce sont des rendez-vous divins. Ce sont des rendez-vous divins. Quelquefois, Dieu se sert par trois moyens pour pouvoir toucher quelqu'un. Quelqu'un a parlé à quelqu'un, et c'est quelqu'un qui s'est marié avec quelqu'un, et puis c'est quelqu'un qui s'est marié avec un cousin, il a eu contact avec cousin, et puis son cousin, il dit, viens, je suis chrétien, je crois en Dieu. Dieu nous parle comme ça. Dieu nous parle comme ça. Moi, je suis élevé dans une... famille chrétienne engagée, enfin dans un couple, mon papa était pasteur, mais ma grand-mère était chrétienne. Mais moi, il y avait un moment où je n'étais pas du tout intéressé, les parents ne pouvaient pas me parler de Dieu, je ne voulais pas que Dieu fasse partie de ma vie. Et puis très, très vite, j'ai commencé à prêcher l'évangile, parce que c'est Dieu qui m'a parlé par quelqu'un d'autre, vous comprenez, par quelqu'un d'autre. Ah bon, il y a d'autres personnes que mes parents qui sont aussi convaincants, ils sont aussi heureux que mes parents, vous voyez. Alors il y a des rendez-vous divins pour chacun d'entre nous. Dieu s'adresse, Dieu s'occupe personnellement de chacun d'entre nous. Alors si tu résistes et s'il y a Dieu... Dieu t'aime, Dieu a décidé de te toucher, de te sauver, Dieu va te rencontrer, peut-être par quelqu'un, il va te parler par quelqu'un d'autre, il mettra pas mal de circonstances en place pour que tu sois sauvé. Sauvé, libéré de la condamnation éternelle. C'est beau ça. Donc voilà, il est question ici, dans ce verset, du salut. Le verset 10 n'est pas très agréable. Hein? Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober. Égorger et détruire. Moi, je suis venu enfin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, je répète, égorger et détruire. Est-ce que tu es conscient que le voleur fait tout pour t'empêcher d'aller plus loin avec Dieu? Il essaye par tous les moyens de dérober ce que tu as dans ta vie, dans ton cœur, dans ta conviction. Il fait tout pour t'égorger comme un brebis. une brebis. Et aussi, il fait tout pour te détruire, écraser. Est-ce que vous croyez que c'est vrai? Ah ben, c'est la parole de Dieu. Amen. Moi, je ne vais pas contourner. Quelquefois, quand je lis la parole de Dieu, il y a des versets qui sont tellement profonds que je me suis dit, quelquefois, je me dis, je vais contourner, puis peut-être ce ne sera pas pour plus tard. Ou quelquefois, quand je parle avec des personnes, je partage les choses. Tout à coup, je me dis, c'est assez dur, assez difficile, assez tranchant. Donc, on va essayer de passer le verset. Et puis, ça m'est déjà arrivé que j'essaye de passer le verset pour aller plus loin, comme ça, doucement, vous comprenez. Et la personne me pose la question, mais le voleur, ça veut dire quoi? Ah bon, d'accord, donc il faut que je t'explique. Alors, vous savez qui c'est le voleur? Ah ben, c'est Satan. C'est Satan, le voleur. Ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Alors, vous savez quoi? Il vient pour voler ta foi. En te décourageant, il sème les doutes et il veut voler quoi? Ta foi. Si ta foi est volée, si tu n'as pas la foi, bah tu vas faire comme une dame qui m'a posé la question il n'y a pas longtemps, parce que ses enfants sont venus à culte. Elle était très fâchée. Elle ne supportait pas que ses enfants, même si ses enfants sont déjà mariés, viennent dans un culte comme ce matin. Et puis elle est venue pour nous dire qu'elle a raison, Dieu n'existe pas, et elle pose la question directe. Prouvez-moi que Jésus-Christ existe. Prouvez-moi. Alors vous essayez de prouver comment? Ben regardez, Jésus est en moi, là, ma vie est changée, c'est lui qui a changé ma vie. Ma joie. Mais ça, c'est philosophique pour la dame. Elle dit, non, monsieur, vous, dites-moi, comment vous pouvez prouver que Jésus existe? Vous comprenez? Tout est là pour... tout est là négatif. Et cette dame-là, elle voulait faire tout faire pour décourager les enfants, pour décourager. Vous voyez? C'est une secte, c'est une religion, c'est pas bon, c'est mauvais, etc. Mais seulement cette dame, elle n'a pas pu rendre ses enfants heureux. Et je lui ai dit, mais Jésus, quand tu rentres dans une maison, la différence, c'est que Jésus peut vous rendre heureux. C'est ça la différence. Donc vous voyez, Satan fait tout pour voler notre foi. C'est un voleur. Il vient voler la paix automatiquement. Quand on perd la foi, je me souviens, j'étais gamin, j'ai perdu la foi parce que je ne voulais pas que Dieu fasse partie de ma vie. Et au moment où ma foi s'est affaiblie, j'ai refusé Dieu. J'ai perdu la paix, j'étais tourmenté, je n'étais pas heureux, je n'étais pas content, j'étais jeune, il n'y a rien qui allait parce que je savais ce que c'était avoir la paix, la joie. Alors le voleur voulait me voler ma paix, ma satisfaction, ma joie. Il voulait, c'est Satan. Ensuite, le diable fait tout pour voler aussi la paix dans les couples, dans les familles. Il y a tellement de problèmes partout, des discords. Alors, c'est Satan qui arrive là comme voleur. Et il veut voler le bonheur d'un couple, d'une famille. Il veut voler. Satan fait tout pour voler ta prière. Lorsque tu pries un petit peu, ça peut te conduire vers quelque chose de plus, et nous sommes en train de vivre ces choses-là dans la semaine, l'intercession, la prière. Parce qu'au moment où tu arrêtes de prier, tu n'as aucune relation avec Dieu, d'accord ? Tout devient intellectuel, et avec le temps, tu deviens tiède, un chrétien intellectuel. Voilà. Donc, il fait tout, Satan fait tout, il rentre dans les couples, dans les personnes, chez les personnes seules, pour voler quoi ? L'esprit des prières. On a entendu parler, l'esprit des prières. On doit prier, intercéder pour que l'Église soit remplie d'un esprit de prière. Mais Satan veut voler de cet élan. Il veut voler tout ça. La joie. Satan fait tout pour nous voler quoi ? Parce que quand tu ne pries pas, tu perds la joie. Amen. Et il fait tout pour voler la joie. Alors quand on parle de la joie, de quelque chose qui se vit, Satan fait tout pour nous endormir. Vous voyez, ce matin, on est là, puis on se réjouit. C'est quelque chose de profond. Là, c'est une joie parce que Dieu est en nous. Mais si on se laisse aller, voilà, on perd la joie. Satan fait tout pour nous voler notre joie. Le bonheur, la même chose. On est heureux. Quand tous ces poids-là sont en place, on est des hommes et des femmes heureux. Nous habitons dans un couple est heureux. Une famille, quand on se réunit, la famille se réunit, quand il y a Dieu, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Parce que Jésus est là. Tout est différent, tout est changé. Donc, vous voyez, Satan veut nous voler aussi le bonheur. Les relations intimes. Nous avons avec Dieu, ce personnage, je répète, donc quelque part, plus vous priez, plus vous intercédez, plus vous adorez Dieu, plus vous lisez la parole de Dieu, vous êtes régonflé, vous êtes de plus en plus fort, et en même temps, nous développons une relation avec Dieu. Ça dépasse notre intellect. Une relation intime, personnelle avec Dieu. Dieu nous parle d'une certaine façon. Vous voyez, donc, Satan fait tout pour nous voler notre relation intime avec Dieu. Que ça soit la personne tout seul, celle ou le couple ou la famille. Alors voilà, la Bible dit que nous sommes libérés de tout ça, de cette condamnation. Nous sommes libérés par Jésus-Christ pour pouvoir aussi libérer d'autres. Amen. Il nous a libérés, il m'a libéré, il nous a libérés. Et notre devoir aussi, c'est pouvoir libérer d'autres personnes qui sont pas bien. C'est pas plus loin que hier soir. Nous sommes allés dans un couple que nous essayons de gagner pour Dieu. Et on essaye de savoir ce qui se passe. Alors, tout bouge à la maison. Tout se déplace, le meuble se déplace, le téléphone, la télé bouge, ça sort un peu par-ci, par-là, il y a des sons qui coulent sur les murs. Il y a des signes terribles dans cette maison-là, mais quand on est là, il n'y a rien qui bouge. On rentre dans la maison, il y a rien qui se passe. Mais on voit combien ces gens sont malheureux. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé ? Ah oui, on a touché au spiritisme. On a touché en sorcellerie, toutes ces choses-là. Et puis voilà, tout ça, on a ramené dans la maison. Mais attention, on se marie. Et puis nous avons les enfants. Et cette malédiction est déjà sur les enfants. La nuit, un gamin de 11 ans ou 12 ans se réveille, cauchemar, il voit des choses, il voit des soldats, il voit toutes sortes de choses. Et finalement, il n'y a personne. C'est spirituel. Alors nous sommes là pour apporter la victoire à une famille. Et puis nous avons dit au père qui est jeune, regarde, si tu continues comme ça, tu as les enfants et tu vas élever les enfants malheureux. Malheureux. Tu as une responsabilité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut régler, il faut dépoussiérer la maison, il faut dépoussiérer l'esprit, le cœur. Il faut couper tous ces liens. Et puis nous avons fait. Parce que nous sommes libérés pour pouvoir libérer d'autres. Et c'est ce que nous trouvons dans la société partout, partout. Nous sommes libérés par Jésus-Christ pour pouvoir libérer. Élisée, vous vous souvenez de l'histoire? Se tourne vers qui? Vers Élie, et il voyait que Élie était un homme de Dieu, un prophète, il faisait beaucoup de miracles. Et Élisée, son disciple, il était très interpellé. Et vous vous souvenez de cette histoire? Élie lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et il a demandé quoi? Double portion de son esprit. Double portion de son esprit. Et est-ce qu'il a reçu la double portion, d'après vous? Vous vous souvenez ou non? Il a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. C'était l'esprit qui était en Élie, finalement. C'était l'esprit de Dieu. Et quand vous voyez l'histoire après d'Élisée, il a fait beaucoup plus de miracles qu'Élie, beaucoup plus. Il a fait des choses spectaculaires pour la gloire de Dieu. Il a renversé les forteresses. Il a obtenu beaucoup de victoires dans son ministère parce qu'il avait quoi en lui? Il avait un esprit de Dieu. Il pouvait vivre naturellement quelque chose surnaturel. Amen. Surnaturel. Donc il était équipé. Élisée, il a reçu un équipement. Et quand il bougeait, quand il se déplaçait, voilà, il se servait de cet équipement. Cet équipement, c'était la puissance de Dieu, l'esprit de Dieu. Il aurait pu dire des choses et puis ça s'est passé, il aurait pu guérir. Il a fait des miracles extraordinaires parce que l'homme est tellement limité, mais le fait que l'Esprit de Dieu était en abondance dans sa vie, par l'Esprit, il a pu faire des choses extraordinaires. Mais vous savez quoi, chers amis? Pour nous, pour toi et moi, pour les chrétiens, pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, nous avons tous l'accès vers Dieu et nous avons tous la possibilité d'être équipés d'une puissance surnaturelle pour pouvoir vivre les choses naturellement. Lorsque nous avons rencontré le deuxième couple qui ne sont pas chrétiens, qui s'intéressent, c'était aussi hier, des enfants, puis un beau couple remarquable, on était là, et puis c'était formidable de se retrouver dans cette famille-là. Mais il fallait faire des choses pour que ça soit en règle devant Dieu, bien sûr. Et au moment où on a touché le domaine qu'il fallait régler, c'est là qu'il y a une montagne, une forteresse, une opposition qui se dresse devant nous. Alors vous pouvez prêcher tout ce que vous voulez, vous pouvez sortir toute la philosophie évangélique et puis la prédication et les études bibliques, tout ça, et, hein, qui, de toute façon, ils n'entendent pas. Alors on était là et puis on a dit, Seigneur, un mot. Tu touches, tu fais quelque chose, un geste. Nous voulons que cette famille soit heureuse. Ils sont dépouillés de la joie, ils sont dépouillés du bonheur, ils sont dépouillés de l'ennemi, ils sont condamnés à la perdition éternelle. Alors ça bouillonne en nous. Est-ce que ça bouillonne en toi quand tu vois quelqu'un malheureux ou non? Pierre, est-ce que ça bouillonne en toi? Moi, je ne supporte pas. Et puis si nous mettons sur la défensive, ça change quoi? Ah ben, rien du tout. Alors, il faut attaquer. Il faut être offensif. Il faut agir. Et puis tout à coup, voilà, dans l'esprit de cette dame, c'était la peur, l'esprit de peur. Le diable veut trouver toujours quelque chose pour faire un blocage. Je ne vais pas avancer parce que j'ai peur que je ne vais pas réussir, je ne vais pas entrer dans les détails. Essayez de... Et puis lorsque nous avons brisé cet esprit de peur, la personne est devenue heureuse, contente. Et puis on a déjà tout de suite sorti un agenda pour certaines choses, pour mettre tout de suite une stratégie d'action en place. Alors vous voyez, nous sommes comme des Élysées devant Dieu, pour vous demander à Dieu, Seigneur, c'est aussi pour moi. Ce que tu as fait avec Élisée, toi, tu peux faire avec moi. Double portion, beaucoup de force, une puissance. Je vais être efficace. Lorsqu'il faut dire un mot, je vais dire juste un mot, mais que ce mot soit confirmé par la présence, la puissance de Dieu. Amen. Donc, vous voyez, l'Église existe aussi pour, en tant qu'un outil pour pouvoir proclamer, communiquer la libération. On a chanté un chant, libre. Mais si vous chantez libre et vous n'êtes pas libre, il y a tellement de gens qui viennent parmi nous, et puis ils chantent un chant, et puis vous regardez un peu parce que, voilà, pourquoi il saute, pourquoi il danse, ou pourquoi il est en réflexion, vous comprenez, il se pose des questions. Et pour lui, pour quelquefois, pour des personnes, la liberté, ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi, la liberté? Mais au moment où on parle avec des gens, on voit les gens ne sont pas heureux parce que Satan est venu pour tout voler. Voilà, et puis on est là un peu dans l'inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans, mais quand vous avez Christ dans vos vies, vous savez que peu importe ce qui se passe demain, vous êtes dans la présence de Dieu. C'est ça qui compte. Amen. Nous sommes une église. Et l'église, c'est toi et moi. C'est nous. Amen. C'est pas le bâtiment. On le répète souvent. Une habitation de Dieu. Vous êtes, nous sommes... Habité par qui? Par Dieu. Dieu habite en nous. Maintenant, attention, parce qu'il ne faut pas que ça soit juste intellectuel. Il faut que ça soit la réalité. Les historiens connaissent beaucoup de choses. Mais il y en a beaucoup, il y en a une là. Ils connaissent beaucoup de choses. On connaît beaucoup de choses. De la même façon, on peut savoir beaucoup de choses. Vous savez que le diable croit que Dieu existe? Il tremble devant Dieu, même le diable. Donc, nous sommes une habitation de Dieu. Il ne faut pas que ça soit juste intellectuel. Il faut que chanter, prononcer le mot liberté, ça ne soit pas juste intellectuel, mais que nous soyons vraiment libérés. Libérés de la condamnation, de la mort, que toi et moi, nous puissions être en tant qu'une église heureuse, une église heureuse, remplie de joie, d'enthousiasme, de force, de puissance. Donc, je répète, nous sommes une église, des gens qui ont un privilège. Et c'est à nous à se tourner vers Dieu puis lui demander un équipement surnaturel, spirituel, comme Élisée. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Matthieu, et chapitre 10, l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 7. Verset 7 nous dit, voilà, lorsque nous sommes équipés, comme Élisée était équipée, ben Dieu s'adresse à nous pour nous dire, quoi? Allez prêcher, c'est-à-dire allez annoncer l'évangile. Partagez ce que vous avez reçu avec d'autres. Amen. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Amen. Alors, c'est pour qui ces versets-là? Est-ce qu'on va contourner? C'est pour que l'Église puisse expérimenter cette grâce, cette merveilleuse chose, l'accomplissement de ces promesses que Jésus nous a laissées. Lorsque notre foi est intellectuelle, et lorsque nous avons juste la connaissance, comme un historien, on ne peut pas aider les malades, on ne peut pas les guérir. Mais si nous avons la puissance, l'autorité, nous allons pouvoir guérir les malades. Amen. Si nous sommes remplis de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu, nous allons voir des résurrections. Il y a tellement de cadavres autour de nous sur le plan spirituel. Il n'y a pas longtemps, nous avons prié pour quelqu'un, on peut voir ça sur le plan tout à fait spirituel. Depuis des années, on s'est éloigné de Dieu. Tout a été négatif. Et puis tout à coup, la personne, elle a changé la direction. On a vu ça comme une résurrection, une nouvelle vie, un changement. Remarquable. J'en ai vu beaucoup. Encore hier, on a vu une manifestation extraordinaire. On avait l'impression que tout a été perdu, aucune chance. Mais lorsque Jésus rentre dans une circonstance, quand il agit, on a l'impression que quelque chose de nouveau qui se passe. Il y a une résurrection, parce qu'il y a une puissance. Est-ce qu'on va prendre au sérieux ces versets-là? Est-ce qu'on va prendre au sérieux? Est-ce que je suis concerné ou c'est pour les autres? Ou c'est juste une histoire? Nous sommes une église, un outil de Dieu, une habitation de Dieu. Et Dieu nous appelle et il nous dit, allez prêcher, annoncer la bonne nouvelle. C'est la parole de Dieu qui nous dit, ressusciter les morts, purifier les lépreux et chasser les démons. Parce que nous nous sommes adressés à quelques jours à un démon, et puis tout à coup, on lui dit, est-ce que tu confesses le nom de Jésus ? Il a dit non ! Ben lui, il ne confesse pas, il sait que Jésus existe. Mais il ne va jamais, jamais confesser que Jésus-Christ est le Sauveur. Amen. Et puis c'est là qu'on a pu lui dire, ben maintenant tu vas nous obéir, la porte est ouverte, tu dégages. Mais c'est ce qu'on a vécu, des choses remarquables. Mais Pierre, Dieu t'appelle pour ça, hein. Tu rigoles parce que ça t'interpelle. Hein. Tu viens là une fois avec moi. Ah, il y a de belles choses. Et la foi, c'est plus que juste quelque chose d'intellectuel. Quelquefois, moi, je dis, on s'amuse bien avec Dieu. C'est tellement beau, c'est formidable. Mes amis, il faut que la foi, il faut que notre engagement, il faut que tout ça, ça dépasse juste notre intellectuel. Mais nous voulons vivre des grandes choses avec Dieu. Amen. Alléluia. Mais, bien sûr, pour pouvoir vivre ces choses-là, il faut que la foi soit au point. Hein. La foi, il faut nourrir par la parole de Dieu. Il faut que la prière et l'intercession nous conduisent vers une communion personnelle intense avec Dieu. Germain souvent nous répète et nous parle de payer le prix. Quand il parle de payer le prix, il parle de sacrifice. Offrande, offre, donne, sacrifie-toi, donne le temps, donne la prière, donne la lecture de la parole de Dieu. Il y a des gens quelquefois qui sont que des chrétiens de dimanche. Excusez-moi pour cette expression, je suis gentil, hein, j'essaye d'être gentil, mais quand je vois les dégâts partout, j'ai dit, lisez la parole de Dieu. Priez. Il y a des choses à l'église. Ne cours pas partout. Il y a tellement de choses qui se passent partout. Essaye de construire. Va chercher une brique pour construire. Ne jette pas les briques un peu partout, par-ci, par-là. Essaye de construire. Cette construction servira aussi pour d'autres. Parce que tu vas construire quelque chose. J'ai dit à quelqu'un, viens. Il y a des choses qui vont se passer. Et tout à coup, on m'appelle et c'est catastrophique. Ben, j'y vais, je n'ai pas de problème. J'y vais, même la nuit, ça m'arrive, quelquefois. Mais je ne vais pas lui dire, mais pourquoi tu n'as pas payé à prix? Pourquoi tu ne t'es pas sacrifié? Pourquoi tu ne t'es pas investi avant? Mais aujourd'hui, c'est peut-être trop tard. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Tu as déjà perdu tes enfants. Mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Oui, on va prier, crier pour tes enfants. Mais il fallait faire plus avant. Il fallait se mobiliser, discipliner dans la vie spirituelle. Parce qu'après, ça peut être trop tard, trop tard. Combien de choses je vois, ben voilà, ça commence déjà. Ça commence déjà. Alors, mes amis, on va se mobiliser dans la prière, dans l'intercession, la lecture de la parole de Dieu. Ensuite, le sacrifice, la sainteté, toutes ces choses-là sont tellement importantes pour être en règle avec Dieu. Avec Dieu. La Sainte-Seine nous a rappelé encore ce matin. Règle avec Dieu. Et puis avec Dieu, on fera quoi? Des exploits. On sera efficace. On verra de belles choses, des changements, des transformations. Nous allons pouvoir briser les péchés. Alors, il n'y a pas longtemps, je parle avec un couple. Et, bon, ne cherchez pas, ils ne sont pas là. Hein. Vous savez, je ne m'occupe pas seulement des gens ici. Hein, donc. J'ai parlé avec un couple et pratiquement, tout a été perdu, Satan a volé. Mais vous savez, quand il vole la paix et tout ça, la joie, l'unité dans un couple, après on perd les affaires, après on perd les enfants, après on perd tout, quoi. On devient SDF quelquefois. Mais c'est terrible, hein. Et Et on est tu es en train de parler avec ces personnes-là et on a compris que Satan est venu pour voler tout dans ce couple-là. Pourquoi? Parce qu'on regarde la porno, parce qu'on regarde d'autres femmes, il y a la trahison, il n'y a pas de confiance. Jamais aimé parler de ça dans, comme ça publiquement dans une église. Mais lorsque je suis devant les situations comme ça, je me suis dit, il faut avertir les jeunes. Il faut leur dire, restez dans la sainteté. Sacrifiez-vous. Préservez-vous. Restez en communion avec Dieu. Dans 5 ans, ça peut être déjà trop tard. Les dégâts sont trop grands. Amen. On va se lever ensemble et on va prier.